Alors, en premier, Bershava Shana Tova à tout le monde. De l'année 1784, on se retrouve tous ensemble en bonne santé pour une nouvelle année, une longue année.
Amen.
Et on se souhaite tous le meilleur, matériel et spirituel. D'abord matériel, après spirituel.
On change de code
alors. Voilà, si on change, c'est vrai. La deuxième, c'est que, bon, là maintenant, il reste quelques jours avant d'arriver à Kippour. Et donc, on avait dit, ceux qui voudraient, on parlerait des caparotes. Enfin, en tout cas, on ferait les caparotes, ceux qui veulent, etc. Alors, puis après, je veux dire un...
Non.
On peut les faire, on peut les faire, on va les faire.
C'est ce qu'elle dit, David.
Oui. Et je veux dire un petit mot sur Kippour. Alors, qu'est-ce que c'est des caparotes? Les caparotes, c'est un minag. Donc, c'est une coutume qui n'est pas marquée dans la Gemara, qui n'est pas, dans la Torah, bien sûr, qui n'est pas marquée ni dans la Mishnah, ni dans la Gemara, bien sûr. Elle est marquée dans les Géonim, c'est-à-dire les rabbins post-Gemara, post-Talmud. Et de façon tout à fait étonnante, quand on regarde la halakhot de Kippour dans le Shulchan Aruch, donc Rabbi Yosef Karo, il dit, le fait qu'on a l'habitude de faire les kaparot la veille de Kippour, donc c'est marqué qu'on l'a fait la veille de Kippour, mais on peut le faire pendant Aseret Yom Teshuva. On peut le faire dans toute cette semaine, on peut commencer déjà à le faire. Il a qu'à l'habitude de faire la veille de Kippour, mais la veille de Kippour, en plus ceux qui faisaient le poulet, il ne faut pas les faire trop à chouchette, etc. Donc ils étalaient ça sur toute la semaine. Mais il dit, Shulchan Aruch, ce qu'on a l'habitude de faire la kapara la veille de Kippour, dégorger un poulet, allô, alcool ben zaha, pour un garçon ou pour une fille, et de dire des psukim, yesh limno aminag. Il faut empêcher ce minag. Donc ça c'est le Rabbi Yosef Karo, d'accord. Tout de suite arrive le Rama, il dit, oui, mais les géonimes, ils ont dit que c'était bien, et beaucoup d'acharonim ont dit que c'était bien, parce que c'est ce qu'un anime. Hein. Et d'ailleurs, on a l'habitude de le faire chez nous, sans aucun problème, il ne faut pas changer, ki minag vatikin, parce que c'est un minag ancien, etc., il explique le minag. Effectivement, que chez les Sfaradim, chez les Ashkenazim aussi on le fait, mais chez les Sfaradim beaucoup plus on le fait en dépit de ce que va dire le Shulchan Aruch. Alors en réalité, bon, pourquoi on a le droit de le faire? Pour une simple raison, c'est que le Shulchan Aruch lui-même, Rabbi Yosef Karo, dans son introduction au Shulchan Aruch, il a dit, moi je suis venu mettre un socle commun au halakhot, pour pas qu'il y ait des dissensions, parce que c'était une époque où il y avait des avis comme ça, des avis comme ça. Donc Rabbi Yosef Karo lui a dit, moi je voudrais mettre un socle commun, mais loin de moi, il l'écrit noir sur blanc, loin de moi de changer les habitudes des gens, de changer des coutumes et des dinim qui sont déjà établis, et que chacun garde ses choses. Moi, quand les gens sont dans le doute, ou quand les gens ne savent pas comment faire, je suis venu vous donner une directive. Mais sinon, il n'est pas de mon ressort de faire changer les gens d'habitude. Sur cette base-là, il y a beaucoup d'alachot qui sont très importants, bien que normalement on écoute le Shulchan Aruch au doigt et à l'œil, mais il y a certaines choses où, suivant les régions, que ce soit en Espagne, que ce soit au Maroc, que ce soit etc., il y avait des coutumes qui étaient bien, bien antérieures au Shulchan Aruch, et ils ont gardé leurs coutumes, que ce soit pour les lois du mariage, etc. Parce que quand après sont arrivés ce qu'on appelait les Megorachim, les exilés d'Espagne, d'accord, ils sont arrivés avec les lois de Rabbi Yosef Karo, etc. Ils ont rencontré des autochtones qui étaient là depuis 400, 500 ans, bien avant la diffusion du Shulchan Aruch, et qui avaient leurs coutumes. Et donc après, c'est vrai que ça a créé des problèmes, des clivages, et que c'est vrai que cette prise de position, pas peureuse, mais disons, du Shulchan Aruch, eh ben, elle va recréer l'état antérieur qui était que chacun fait son petit truc, c'était ça le problème. Bon, parce qu'on a parlé souvent, et c'est ça d'ailleurs la problématique qu'a voulu aborder le Rav Obadiah Yosef, quand il a refondu de nouveau la halakhot, en disant, on va rester, hein, les Marocains, les Algériens, même pour le monde sfarade, chacun avec son petit truc, il faut qu'on refonde, et il a tapé sur la table en disant, vous savez quoi, on se remet tous au carré, au Shulchan Aruch. Sauf que ça a rencontré les oppositions qu'on connaît, parce qu'il y avait les coutumes, etc., et qu'on rencontrait le même problème donc qu'a posé Rabbi Yosef Karo. Donc ça, c'est un problème annexe. Mais en tout cas, pour ce problème des caparotes, Rabbi Yosef Karo, pour des raisons qu'on ignore, parce qu'il était certainement au courant des minagim existants, il a préféré mettre un stop et dit il ne faut pas le faire. Malgré tout, malgré son stop, ça a continué de plus belle, et chez les Sfaradim, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, et chez les Ashkenazim, tout le monde, quasiment tout le monde, fait les caparotes. Alors les gens font les caporottes sur les poulets, les gens font les caporottes sur les poissons, les Ashkenazes, ils n'ont pas, oui, c'était compliqué, ils faisaient avec des carpes, et certains, beaucoup, font avec de l'argent. D'accord ? Mais l'idée de la kapara, c'est une idée ancrée, ce qu'on appelle la kapara, d'ailleurs c'est le même mot que Kippour, c'est le pardon, l'expiation, c'est une idée ancrée, et donc, et c'est pas le seul endroit où on voit qu'on désobéit au Shulchan Aruch. D'accord ? Ça paraît tout à fait étonnant, c'est suffisamment exceptionnel pour mettre le doigt dessus, mais il y a d'autres points comme ça, dans les lois de divorce, dans certaines lois de mariage et de divorce, il y avait des coutumes antérieures à l'établissement du Shulchan Aruch, et les gens n'ont pas bougé, même dans des lois de Shabbat aussi, d'accord ? On peut, comme on a dit, ça peut poser un problème, d'accord ? Mais d'un autre côté, on ne peut pas martyriser les gens en leur disant « on va tout niveler par le bas et vous allez abandonner des centaines d'années de coutumes ». D'ailleurs, c'est pour cette raison que maintenant, déjà du vivant de Rav Obadiah, mais même maintenant, après le décès de Rav Obadiah Yosef, vous avez des communautés qui se relèvent en disant « mais nous les Marocains, on n'avait pas la coutume comme ça, nous les Tunisiens, nous les Algériens, il n'y a pas de raison qu'on plie la tête ». Parce que Rav Obadiah, il se base beaucoup sur... Il est un Irakien, etc. Et donc, c'est la coutume irakienne qui prévaut. Même le... Si vous remarquez, quand vous êtes en Israël, vous prenez des sidours, c'est pas la même version que le Patach El Yahou. Il y a des nuances, le Kaddish, c'est pas le même, etc. Bon, c'est des nuances. Alors, revenons-en aux Kaparot. Le principe des Kaparot, pourquoi il a été remis en question par Rabbi Yosef Karo? Parce que c'est vrai que ça fait un peu barbare, d'accord? Ça fait un peu... Depuis la destruction de Beth Amikdash, on fait plus de sacrifices, d'accord? Et c'est vrai que ça ressemble à une forme de sacrifice, ok? Où on sacrifie, on ne sait pas pourquoi. Et c'est vrai qu'aussi, ça fait penser aux les deux boucs de Kippour, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sentent le soufre. Donc c'est pour cette raison que ceux qui n'ont pas voulu, comme Rabbi Yosef Karo, ils ont des raisons. Mais malgré tout, en fait, l'idée, c'est un peu, c'est vrai que ça ressemble à l'idée du Korban. L'idée du Korban, d'accord, elle peut être faussement comprise en disant, voilà, le malheur qui devait m'arriver viennent sur le sacrifice, allez, kapara, d'accord? Quelqu'un, il fait un accident de voiture, sa mère lui dit kapara, quelqu'un, il perd kapara, ça veut dire quoi? Tout le mal, il est parti là-dedans, d'accord? C'est vrai que ça, quelque part, c'est un peu trompeur, parce que si vous prenez un poulet, d'accord, vous le tournez autour de la tête, et vous dites kapara, d'abord, ça déresponsabilise, d'accord? Ça fait comme si toutes mes fautes, elles sont parties avec le poulet, et puis ça veut rien dire que la faute, elle va partir avec le poulet. Si tu restes avec tes mauvaises actions, et que tu changes rien, il n'y a pas de raison que le poulet il emmène la faute. Ça c'est la première critique. Et la deuxième, c'est vrai que ça peut laisser penser à des gens que c'est une forme de sacrifice hors temple. Ça ressemble à un sacrifice quelque part, d'accord? C'est la même chose qu'on faisait dans le sacrifice. On les brûlait, il y avait des sacrifices qu'on brûlait, des sacrifices qu'on mangeait. Donc pour toutes ces raisons, certains ont voulu interdire. Malgré tout, la période de Kippour, elle est tellement propice au changement de l'homme, qu'un individu, il a besoin de matérialiser le changement complet. La tchouva, en réalité, souvent on a parlé de ça, faire tchouva, c'est le bouton reset. D'accord ? C'est-à-dire que celui que j'étais l'année dernière, c'est un nouveau. Il a changé, c'est plus le même, d'accord ? J'ai pris des décisions à Rosh Hashanah, j'ai décidé de changer, de m'améliorer. Alors on reparlera, qu'est-ce que ça veut dire ce changement ? C'est-à-dire de plus être le même. On verra parce que bon, on est tous, on n'a pas beaucoup bougé quoi depuis la semaine dernière. Peut-être intérieurement beaucoup, on a bougé, mais se connaissant, me connaissant et connaissant un petit peu, bon, on bouge au millimètre quoi. Parfois on bouge un ou deux millimètres, on a pris des bonnes décisions, on a bougé un petit peu. Malgré tout, l'idée c'est que on aborde Kippour avec cette idée, on va tout balayer, on va tout changer. Et donc l'idée de la kapara, d'accord, c'était d'ailleurs aussi l'idée fondamentale du Korban, c'était de dire, voilà, l'ancien, le David 5783, il a disparu, d'accord ? Il n'est plus là, maintenant c'est un nouveau. Il a disparu comme ce poulet. C'est pas que le poulet, il a pris les fautes de la personne, c'est que, de façon symbolique, d'accord, je vois l'être que j'aimerais voir disparaître, d'accord ? Toutes les défauts, toutes les tares qu'on avait, toutes les erreurs qu'on a faites, j'aimerais les voir disparaître, et c'est vrai que la fête de Kippour, elle propose ça. Elle propose un reset de la personne. C'est pour cette raison qu'en vérité, nous, on a tous l'angoisse de Kippour, mais en réalité, Kippour, c'est une fête de joie. C'est une fête de simcha, d'accord, qui est traduite, premièrement, par tous les repas qu'on fait la veille de Kippour. Kippour, on doit jeûner. Mais comme on ne peut pas manger, eh bien on se rattrape la veille de Kippour et on fait des repas qui sont en fait ceux de Kippour. Et encore plus fort, c'est en fait la liturgie de Kippour, qui est une liturgie, vous connaissez toute cette fameuse idée, qui est une liturgie joyeuse. Les heures de Kippour, en particulier chez les Sfaradim, toute la liturgie est joyeuse. Alors c'est une fête de joie, pourquoi? Parce que c'est une fête qui permet, qui donne la possibilité de remettre à plat les choses, d'accord? En disant, voilà, c'est fini. Alors, on n'est pas dupe, mais on dit à Hachem, voilà, je vais essayer de changer, d'accord? Et celui que tu connaissais, celui que vous connaissiez, c'est plus le même, d'accord? C'est plus le même, il a pris des nouvelles options, il a pris une nouvelle optique, et où il est l'autre? Ben l'autre, il est parti. Et donc, et c'est ça l'idée, en vérité, de l'accaparat. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut regarder à l'accaparat, pas dans le sens, je reste le même, et le poulet, il prend mes fautes. D'accord? J'ai changé, et je matérialise mon changement, je matérialise le bouton reset par la disparition. On va pas me faire disparaître, d'accord? Mais on fait disparaître un poulet qui signifie que moi, la personne que j'étais l'année dernière, il a changé. Donc, en réalité, c'est vrai que c'est un beau minage. Et c'est un minhag que si on le fait avec toute l'arrière-pensée qu'il doit y avoir, c'est un minhag qu'il faut conserver de toute manière, même si on y est opposé, c'est le minhag de nos ancêtres. D'accord? Et à ce titre-là, on ne peut pas se permettre du jour au lendemain en disant non, moi je suis plus intelligent que mes parents, que mes grands-parents, et donc je vais arrêter toutes ces inepties, parce que quand on commence comme ça, c'est vrai qu'on commence par le poulet, mais après on finit par le kidouche, par le moti, par monter en ascenseur Shabbat. On fait tous les changements, ça veut dire que mes parents faisaient, mais maintenant c'est nouveau. Non, la base, le fil conducteur du Ham Israël, ce que mes parents faisaient, mes grands-parents faisaient, je fais. D'accord? Que vous ne me racontez pas des histoires, Hachem Beler, Hachem Malar, tous les trucs, tout ce que tu as vu, ce que tu te rappelles, ce que tu te rappelles plus, ou ce qui a été édulcoré ou abîmé, alors tu reviens au Shulchan Aruch. Mais ce que tu te rappelles de tes parents, tu fais pareil. Même si quelqu'un vient te dire, non, dans la mesure où c'est pas en contradiction avec la halakha, d'accord? Par exemple, ce qu'on faisait nous, j'ai pas de honte parce que comme beaucoup d'Algériens, le huitième jour de Pessah, d'accord, dans l'après-midi, on s'en va dans les champs, on coupe le blé.
Et on fait trois fautes.
Et on mange des gâteaux, et d'accord, avec la menthe, etc. Bon. C'est sûr que ça, c'est une erreur, parce que c'est quand même le huitième jour. Donc, on a beau aimer nos ancêtres, il y a des moments où il faut faire un petit retour en arrière. Donc, c'est vrai qu'avec le temps, on a supprimé ça, et c'est une mimouna avancée. Les Algériens, et beaucoup, ils étaient comme ça. Je ne sais pas quelle est l'origine de ce minag-là, mais ils faisaient la mimouna en avance, ils mangeaient les gâteaux dans l'après-midi. Ils ne mangeaient pas chez eux. Ils sortaient dans les champs, ils allaient couper le blé, et ils mangeaient. Alors je pense qu'il devait manger kasher les Pessah. En réalité, oui. C'est possible qu'il mangeait kasher les Pessah, puis qu'avec le temps,
il y avait deux sortes de familles.
Ouais, qu'avec le temps, bon, ça c'est, en fait, c'est ça l'histoire. Donc en vérité, c'est extraordinaire de garder les minagim dans la mesure où les minagim ils sont conformes avec la halakha. En tout cas pour ce minag des kaparot, il n'y a aucune honte à faire la kapara. Et même si le Shulchan Aruch, avec tout l'amour qu'on a pour Rabbi Yosef Karo, eh ben dans ce cas-là, on ne l'écoute pas. Et tout le monde dit unanimement, même Rav Obadia. Rav Yosef, qui est un fervent qui voulait justement ramener la couronne au Shulchan Aruch, il a dit non, là c'est exagéré, on fait les kaparot, tout le monde fait les kaparot, comme vous voulez, soit avec un poulet, soit avec. Alors par contre, ce qui est important, justement pour ne pas tomber dans ces travers qu'avait dit Shulchan Aruch, c'est que normalement, ce poulet-là, si il est chargé de fautes, on le jette, on le brûle, d'accord? Et c'est bien à cause de cette erreur-là que le Shulchan Aruch voulait arrêter. Le poulet, il n'est pas chargé de fautes. Il est propre, il est bien. Il ne peut pas prendre tes fautes, le poulet. Le poulet, il t'a fait prendre conscience que le Beaujolais ancien est fini, maintenant c'est un nouvel être. Donc à ce titre-là, justement, pour pallier à ça, on donne les caparottes à des pauvres. D'accord? Et souvent les gens disent, ouais, mais c'est honteux, tu leur donnes le poulet tout sale, plein de tes fautes. C'est pas du tout. Parce que t'as rien compris ce que c'est les caparottes. La capara, c'est pas que je charge le poulet de mes fautes. Au contraire, c'est moi qui prends conscience de ce qui change. D'accord? Et le poulet, au contraire, c'est un poulet kadosh qui m'a aidé à prendre conscience. Donc c'est pour ça que les caparottes, on les donne, les poulets, on les donne aux pauvres. D'accord? Il y en a qui le font, qui laissent à la macolette des poulets à distribuer. Ou sinon, l'argent avec lequel on fait la capara, on le donne à des institutions, etc. Et vous voyez bien que l'argent, il peut pas porter la faute, l'argent. L'argent, il est rien. Alors c'est vrai que l'argent, c'est la valeur du poulet, etc. Donc il faut déjà faire un petit travail dans sa tête pour s'apercevoir qui a le sens de l'argent. Parce que si vous prenez de l'argent, c'est marqué qu'on peut faire avec l'argent. Mais si vous prenez l'argent, vous tournez des caparatis, et alors on dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a plus de mal qu'avec le poulet. Non, il ne faut pas le jeter, non. On ne le jette pas. Donc il faut déjà faire l'idée qu'en réalité, je dois prendre un poulet, mais comme c'est compliqué de prendre un poulet, que je n'ai pas le temps, que je ne peux pas, donc je prends de l'argent, qui représente ce poulet? Qui représente mon changement d'orientation? Ce qui est assez clair pour les caporaux. Maintenant, par rapport à ce qu'on a dit du changement, d'accord? Alors il y a deux choses très importantes qui ont été mises en valeur par un grand rav contemporain qui s'appelle Rav Israël Salanter, d'accord? On a dit, nous, Kippour, c'est le reset. D'accord? La tchouva, faire tchouva. C'est des grands mots, chacun connaît, faire tchouva, faire tchouva. Et à Kippour, on a la liste, hein? Ta 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 ta, vous la voyez défiler avec les détails, etc. On a une liste de choses à arranger. Et on ne peut pas du jour au lendemain, que ce soit Rosh Hashanah, que ce soit Etzaret Yom Tchouva, ou que ce soit Kippour, on ne peut pas changer. Donc comment ça peut s'accorder avec ce qu'on a dit? C'est fini, la personne ancienne est plus là, maintenant c'est un nouveau. C'est pas vrai, c'est pas un nouveau, c'est le même. Tu fais quasiment les mêmes choses. Alors en réalité, tout se joue sur le quasiment. Il a dit à Israël Salanter quelque chose d'extraordinaire. Il dit, un Baal Tchouva, c'est quoi la Tchouva? C'est le retour. C'est pas que on était un rachat et on est devenu un tzadik. On est sur la route du retour. Il a dit, en réalité, ce qu'on demande d'un individu, c'est de faire un pas. C'est-à-dire reprendre une chose qui faisait pas bien, d'accord? Et pas de la s'il arrive à la transformer, oui, mais au moins de l'améliorer. Ça veut dire que s'il peut faire une petite chose, il est déjà Baal Tchouva. Et à ce titre-là, c'est plus le même. C'est plus le même bonhomme. Quand Rabbi Israël Salanter est arrivé, Rav dans une ville, on lui a dit, vous savez, Rav, ici tout le monde travaille Shabbat. Donc vous aurez fort à faire. Il dit, il n'y a pas de problème. Il est allé les premiers, le vendredi, et il disait aux marchands, c'était tous des marchands, il y a eu des époques où le peuple juif était bien perdu. Et il leur disait Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Et puis au bout, quand les gens ils ont vu que le nouveau rabbin de la ville n'était pas méchant, il est allé les voir et il dit, je peux vous demander quelque chose? Il dit oui. Il dit, allez, vous ouvrez votre magasin? Je comprends. La parnassa, c'est très important, je ne peux pas vous demander de fermer le magasin. D'accord, c'est trop dur. Je vous demander une chose, les clés du magasin, mettez-les à la ceinture. D'accord, parce qu'on ne peut pas porter Shabbat. D'accord? Donc je dis, je vous demande une chose. Ouvrir le magasin, travailler, l'argent, pour l'instant, c'est trop tôt. Mais faites un petit quelque chose. Et les gens, ils ont rigolé, ils ont dit, mais monsieur Herman, on est là, on vend, on veut l'argent, on est crié. Il dit, oui, mais c'est pas grave. Si vous faites ça, vous êtes déjà un Baal Tchouva. D'accord? Et il y en a qui ont dit d'accord. Il y en a qui ont dit d'accord. Et c'est ça l'idée qu'il a voulu mettre en avant, Rabbi Israël Salanter. En réalité, elle est très importante pour chacun, à quelque niveau qu'il soit. On a des problèmes qui sont très compliqués à affronter. D'accord? Des fois, on est bien, on est au carré un peu sur tout, mais des fois, on n'est pas au carré et c'est compliqué de se mettre au carré. Il y a des situations qui font que... Maintenant, il faut réfléchir. Voilà, cette situation, elle me dérange. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire pour être pas le même? L'année dernière, j'ouvrais mon magasin, je partais en voiture, je faisais tout. D'accord? Cette année, je voudrais changer. Mais je peux pas. Je peux pas. Je suis pris, je suis attaché, je ne peux pas. Sauf à tout renverser. Donc, je vais écouter Rabbi Israël. Est-ce que je peux être un Baal Tchouva? Rabbi Israël va me dire oui. Tu peux être un Baal Tchouva, tu peux t'inspirer du poulet qui est parti avec les fautes. Comment? En changeant une petite chose. Ça veut dire que tu es sur la route de la Tchouva. Alors, ça peut être sur la cache-route, ça peut être sur le Shabbat, ça peut être sur des milliers de choses. Ça peut être sur des milliers de choses. Mais l'idée, c'est ça, là. Et je trouve qu'elle est fondamentale. C'est-à-dire, on peut... Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de cette capara. On peut très bien faire la capara en sachant que on reste avec des paquets. Parce que Kippour, on ne peut pas poser tous les paquets. Il y a des paquets très, très compliqués à poser. Mais malgré tout... Laisse. Mais malgré tout... Non, c'est le téléphone. Mais malgré tout, et je trouve que c'est beaucoup d'audace de Rabbi Israël Salanter de faire ça. Et il a dit pareil pour les mitzvot. Il dit, par exemple, on demande à un homme de faire les mitzvot. Oui, tu vas dire, oui, monsieur Ben Kemoun, vous mettez les tefillin? Ah non, je ne peux pas les tefillin. Est-ce que vous voudriez mettre les tefillin? C'est trop compliqué, le travail. D'accord, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'une fois par semaine, vous accepteriez? Ah bon, d'accord, une fois par semaine. Ah, c'est bon, ça suffit. Une fois par semaine, signe. Une fois par semaine, tu mets les tefillin, tu t'appelles un Baal Tchouva. Et tu peux faire la kabbara. C'est-à-dire, ce qui est valable dans les mitzvot, c'est valable dans les averot. On ne te demande pas de tout changer. Parce qu'on sait que tu ne peux pas tout changer. On ne peut pas demander à un homme de tout changer comme ça en un instant, et de veille de Rosh Hashanah ou veille de Kippour à lendemain de Kippour, être, on est tous les mêmes que la semaine dernière. On n'a pas changé ni de visage, ni de comportement, à peu près, quoi. J'imagine qu'à l'intérieur, il y a des choses qui ont bougé, mais en réalité, c'est ça qu'il faut voir. Et donc, et c'est dans ce sens-là qu'on peut faire le Tachanoun, la tête haute. Ça veut dire que Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, d'accord ? Alors, il faut le traduire, mais il y a des choses que on peut pas. Il y a des choses, alors tu les lis, parce que comme c'est au pluriel, donc ça inclut tout le monde, et tu dis, bon, l'année prochaine, je bougerai là-dedans. Mais au moins, sur l'ensemble des 20 ou 30 exposés d'erreurs, d'accord ? Tu en prends une, et dis, sur celle-là, je fais un pas. Un pas. D'accord ? Ça suffit pour ce qui pour. J'ai du temps. Et les autres, après. Si on peut faire sur deux, sur trois, tant mieux. C'est-à-dire que c'est pas exclusif. Mais en vérité, il faut faire cet effort-là, de choisir une mitzvah et de faire un pas en avant, et de choisir une avera et de faire un pas en arrière. Et avec ça, normalement, le kippour, il a son sens, et on est véritablement un Baal Tshuva. D'accord ? Mais dites-vous bien que rares sont les personnes qui font ça. On se lamente sur nos fautes, on demande à Dieu, s'il te plaît, pardonne-nous, parce qu'on a fait, on a fait, on a fait, mais on n'a pas changé d'un millimètre. Donc ça n'a pas de sens de demander le pardon. Par contre, si on exprime et on agit dans ce sens-là, dans une dynamique, voilà, une dynamique positive de tshuva sur les erreurs, de tshuva sur les mitzvot non faites, eh bien à ce moment-là, on peut demander, on peut dire à Hachem, voilà, tu vois, je fais des efforts. Alors toi aussi, tu m'enlèves un peu de ma liste de mon paquet. D'accord ? Alors c'est pas du tout moralisateur, au contraire, parce que c'est et ce qu'on disait d'ailleurs la semaine dernière, c'est la grandeur du peuple juif d'avoir un jour dans l'année qui lui permet de se renouveler, d'accord ? Et d'oublier qu'il a plein de crasse qui le dérange et qu'il aimerait enlever. D'accord ? À partir du moment où il a fait cette démarche, il peut dire « Oui, je suis quelqu'un de nouveau. » Ok ? Voilà, c'est ça que je voulais vous dire en Erev Kippour. Et c'est très important, puis ça permet même de lire le Tachanoun sans remords, parce qu'on lit ça en disant bah, d'accord, mais d'accord, c'est moi. Là, c'est moi, là, c'est moi, là, c'est moi. Non, là, c'est plus moi. C'était moi, l'année dernière, voleur. J'ai volé. Oui, c'est vrai, mais j'ai décidé à partir de maintenant de truander un peu moins mes employés, de truander un peu moins ci et ça, de truander un peu moins mes îles. D'accord ? Donc, Gazal, nous, c'est fini. C'est pas que j'ai arrêté. Je continue à voler les impôts à tort et à travers. Mais dans cette partie-là, je vole moins. D'accord ? Ou bien quand j'ai les parties de cache-route. D'accord ? Et je ne peux pas les repas d'affaires. D'accord. Mais je vais au resto, j'essaye de manger du poisson. D'accord ? Voilà. J'essaye de manger du poisson. Ne m'en demandez pas plus, parce que après, je ne peux pas, c'est mon travail. D'accord ? Mais après, quand tu te présentes dans le Tachanoun, tu dis oui, je suis un vrai Baal Tshuva, moi. Je suis un vrai Baal Tshuva. La pizza que je mange, vous m'enlevez mes petits lardons, au moins ça. Et l'année d'après, tu dis, vous m'enlevez le fromage, je prends du temps, etc. Doucement, on a jusqu'à 120 ans et plus. Allez, on y va. On reprend la Guémara. Vous êtes bon ? Alors ? Oui. Page Lamed et. Vous êtes bon ? Oui, alors, juste pour les horaires, bon, les horaires, vous savez, ils ont un peu décalé parce qu'on a fait Mincha Arvit, mais dans pas longtemps, Mincha va s'arrêter, donc il n'y aura que Arvit à 7h ou 7h15, et on commencera pile à 7h30, et on arrêtera pile à 8h30, d'accord ? Promis, pour pas décaler parce que les gens sont fatigués. Alors, je voudrais juste reprendre... C'est bon ?
C'est bon.
C'est bon.
D'accord. Donc, si vous pouvez venir à 7h, tant mieux, mais même si vous ne venez pas, on fera 7h, 7h15, 7h30, Arvit. Amar, je reprends Olamed et...
Hein après, ça fait après. Partie des bonnes décisions.
Exactement. Pas mal, oui, ça raison. Bon, mais ça c'est une facile, ça, d'accord. Ouais, mais c'est vrai. Il n'y a pas de facile, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. N'importe quoi pour s'améliorer, c'est bon, c'est une bonne
remarque. Oui.
Alors, je voudrais reprendre avec vous juste ce paragraphe, parce que c'est un très beau paragraphe, on l'avait fait en fin d'heure. Lamed et le deuxième paragraphe, Amarlé, vous êtes bon ? Greg, t'es bon ?
Oui.
Amarli, Alors, c'était une discussion entre deux raves. Je vous rappelle que dans le psaume 103 et le psaume 104, c'est Barchi Nafshi. Il y a cinq fois le mot Barchi Nafshi, que mon âme loue Dieu. D'accord? Et là, la Gemara était interrogée sur ces cinq louanges de l'âme vers Dieu. Et il y avait eu une première explication qui disait que c'était les cinq mondes qu'a connu le roi David. Très bien. Et après, on a vu une deuxième explication. Amar lui a dit le Rav, Ana achika amina lecha. Moi, c'est ça que j'ai voulu te dire. Ani chamisha barchi nafshi, les cinq barchi nafshi, qu'elle bénisse mon âme l'éternel, kenegedmi amaran David, par rapport à qui il les a dit. Et je vous avais fait remarquer que les cinq barchi nafshi sont également en rapport avec les cinq niveaux de l'âme. L'âme, elle a cinq niveaux. C'est quoi les cinq niveaux, Maurice? Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Nefesh, c'est l'âme vitale, d'accord? Dans le sang. Parce que même un animal, tout le monde a. Ruach, d'accord? C'est le sentiment. C'est déjà quelque chose qui est plus proche de l'humain. Neshama, c'est la Neshama, c'est l'âme spirituelle. Le Ruach, on va dire, c'est ce qui donne un... l'ensemble des comportements, des sentiments, c'est un peu plus élevé. C'est pas l'animal. On va dire c'est l'humain. L'humain, il exprime en rouar. La neshama, c'est l'âme spirituelle. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Le peuple juif, il l'a parce qu'il a décidé d'avoir un mode de vie spirituel. Et donc, Hachem, il lui a donné une neshama. Et il lui renouvelle cette neshama. Et après, vous avez les deux derniers niveaux qui sont chaya et yechida, qui sont des niveaux de l'âme qui sont très proches d'Hachem. Que la chaya, c'est la vitalité, on avait expliqué à Hachem, il est chay de kayam, et la yechida, c'est l'unicité de Dieu, c'est le niveau que l'âme atteint juste avant de mourir, quand elle va être mityached, elle va s'unir avec Hachem, d'accord? C'est le niveau que Moshe Rabbeinu a atteint juste avant de mourir. Nefesh, war, neshama, chaya, yechida. Les cinq niveaux de l'âme. Et donc, de façon, et on avait dit également que l'âme dans son ensemble, on l'appelle nefesh. D'accord? Il ne faut pas se tromper. Que c'est vrai que Nefesh, c'est le socle de base. Les autres n'existent que sur la base de Nefesh. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. D'accord? Et donc, quand David HaMelech, il dit Barchi Nafshi, mon âme dans sa globalité, même la Chaya, Yechida, font partie de Nefesh. Ok? Donc, Lo Amran, la deuxième ligne, Ela Keneged Akadosh Ohu Keneged Neshama. Hachem a employé cinq fois le mot Barchi Nafshi par rapport à Dieu. Et par rapport à l'âme, c'est-à-dire c'était pour faire, si l'âme elle loue Dieu cinq fois, louer, c'est qu'elle trouve, elle a un lien avec Hachem, d'accord? Vous louez Dieu quand vous avez une perception particulière, d'accord? Vous louez Hachem, si vous avez fait quelque chose, réussi quelque chose de bien, vous le louez, d'accord? Vous le louez pour son chesed, ok? Donc, à ce titre-là, vous levez un matin, vous avez fait une bonne affaire, votre fille a eu un enfant, etc. Vous louez Hachem pour son chesed. Donc David HaMelech, si cinq fois il a dit Barchi Nafshi, c'est qu'il y a eu cinq situations qui normalement sont différentes, où l'âme, elle s'est sentie redevable, elle avait quelque chose à dire à Hachem. C'est quoi ces cinq fois? Alors il dit, la Gemara dit, qu'en réalité, l'âme, elle s'est trouvée cinq points de concordance avec Hachem. C'est-à-dire, Ma akadosh baruch hu melokol haolam, comme l'Éternel y remplit tout le monde, af neshama melea et kol haguf. De la même manière, l'âme remplit le corps. Ça veut dire qu'en réalité, c'est très intéressant ce renseignement, c'est pour ça aussi que je voulais le refaire, qu'en réalité, ces cinq points qui vont caractériser l'âme te permettent quelque part d'appréhender la présence d'Hachem. Hachem, il est invisible, on ne peut pas le voir, il est partout, d'accord? Et on travaille sur la Emouna. D'accord? C'est un travail. La Emouna, à chaque seconde, il faut la remettre en question. Parce qu'on a toujours des points. Et si c'était pas, et si c'était comme ça, etc. C'est normal. Tous les questionnements qu'un être humain, il a. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une mitzvah de Emouna. Le premier commandement de la Torah, c'est je suis l'éternel ton Dieu. Oui? C'est quoi, je suis l'éternel ton Dieu? C'est pas un commandement. C'est une affirmation. Donc, et pourtant, c'est compté dans la 613 mitzvot. Ça veut donc dire, comme ça dit le Rambam, les commentateurs, qu'il y a une mitzvah de se persuader, de comprendre qu'il y a un Dieu dans le monde et que c'est lui qui dirige. Et que ce n'est pas donné. On est dans un monde qui est tellement athéiste et tellement opposé. Il y a tellement de difficultés, de malheurs, de complications, surtout pour nous avec tout ce qu'on vit et tout ce qu'on a vécu, que c'est compliqué, quoi. Il faut faire un effort, d'accord, pour se rattraper tout le temps et comprendre que oui, il y a un Dieu qui dirige le monde, même si le monde nous incite ou les événements nous incitent à penser que non, non, il y a un Dieu qui dirige le monde et qui va vers un objectif. D'accord? Et donc, l'idée de la Gemara, c'est de s'aider de son âme. Parce que son âme, par 5 ponts, elle est en relation avec Dieu. Ok? Et mon âme, c'est ce que je perçois. Alors vous allez me dire, mais enfin, c'est pas plus facile de percevoir son âme que de percevoir Dieu. D'accord? Si. Parce que son âme, on va voir. Regardez, le premier point, il dit, de la même manière que Dieu remplit le monde, af neshama mela et kolagouf. L'âme, ça veut dire là, et vous voyez que, ici, on a parlé de la neshama, puisqu'on a parlé du troisième niveau, pas le quatrième, cinquième, mais la neshama, elle remplit tout le corps. Ça veut dire, les trois parties, ça comprend même les du dessous, le nefesh et le roi. Mais la neshama, elle remplit le corps, ça veut dire quoi? C'est ma vie. Ma vie, elle remplit mon corps. Il n'y a pas un poil de mon corps, un micron de mon corps où je ne sens pas la présence de mon âme. C'est ma vie. D'accord? Il n'y a qu'à voir un mort et on s'aperçoit tout de suite qu'il y a quelque chose qui est parti là-dedans. Tout est là, mais il manque l'électricité, il manque ce... Ça, c'est l'aneshama, ce qu'on appelle la vie. Ok? Et ici, il faut quand même remarquer que la correspondance entre Dieu et l'aneshama, elle reste quand même... limité. Parce que quand on dit Dieu remplit le monde, quelque part, ça inciterait à penser que Dieu est limité par le monde. Notre neshama, oui, elle est que dans votre corps. Elle n'est pas là, la neshama. Hein. Elle ne se balade pas, votre neshama. Donc, elle emplit mon corps, c'est vrai, mais elle n'est pas en dehors. Alors que Dieu, il remplit le monde, c'est vrai, mais il n'est pas lié au monde et il n'est pas limité au monde. Le monde que nous, on connaît. Et Hachem, il remplit le monde entier, le cosmos. Mais même en dehors, même là où il n'y a plus rien, même dans les trous noirs, même quand il n'y a plus de matière, même quand, avant qu'il y ait, après qu'il y ait, il est encore là, Hachem. Donc c'est pas tout à fait pareil que la Neshama. La Neshama, c'est un ersatz de la présence d'Hachem. Mais elle nous fait comprendre cette idée-là, qu'il peut y avoir quelque chose d'impalpable, d'accord, qui remplit tout l'univers. C'est ça l'idée de la Neshama. D'accord? Tu as un problème avec la présence d'Hachem, eh bien aide-toi de ta neshama. Ta neshama, tu sais qu'elle existe, ta vie, on va l'appeler ta vie. Tu veux pas l'appeler neshama, n'appelle pas neshama, n'appelle pas ta vie. Ton souffle vital, il est là, il remplit le corps. Eh bien, ce souffle vital, c'est une émanation de Hachem. Et donc, ça pose pas de problème qu'Hachem y remplisse le monde. Au minimum. Deux. C'est le premier point. Deuxièmement, troisième ligne. Ma kadosh ru ro'e veno nir'e. Vous êtes à la quatrième ligne? Comme Hachem, il voit. Et il n'est pas vu. Af neshama, la même chose, l'âme, elle voit. Vena nir it, et elle n'est pas vue. C'est-à-dire, l'âme, tu ne peux pas la voir. D'accord? L'âme, elle sait ce qui se passe. L'âme, c'est-à-dire, l'âme, elle voit. En réalité, l'âme, Hachem, il a donné à la neshama une force de voir au-delà des limites de distance. Comme c'est marqué que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Harishon, il pouvait voir d'un bout à l'autre du monde. Et quand l'enfant, il est dans le ventre de sa mère, aussi son âme, elle perçoit beaucoup plus loin que le simple ventre de sa mère. Mais c'est après, avec la naissance, l'âme, elle se limite dans son corps. Mais en réalité, l'âme, elle a la capacité, d'accord, intrinsèque, de pouvoir voir au-delà des limites du corps. Et les chachamim qui savent faire ça, ils peuvent voir. C'est marqué dans la Gemara, qu'il y avait des chachamim même jusqu'à après, qui pouvaient voir loin. Il y a plein d'histoires sur Baba Salé. Vous connaissez l'histoire de Baba Salé avec les. Il y avait eu un rapt. Et ils avaient. C'était en Eretz Israël. Quand Baba Salé était déjà vieux. C'était des gens qui avaient kidnappé quelqu'un. Ils l'avaient caché, etc. Et la famille devenait folle. Ils sont allés chez Baba Salé. Il leur a dit: allez là, et là, et là, vous trouverez. Ils ont été, ils ont trouvé. C'est-à-dire que les tzadikim, ils ont cette capacité de faire émerger leur âme au-delà de leur corps. Normalement, on a. La Gemara dit, Ro'a venanirit. Elle peut voir. D'accord? C'est-à-dire la même chose que l'homme, il a des capacités et physiques, et mentales, et spirituelles, que lui-même se limite. Oui? Où est-ce qu'on a vu ça? C'est marqué, même les capacités physiques. Alors souvent, on donne l'exemple des choses qu'un homme est capable de faire en cas de danger. D'accord? En cas de danger, une mère, elle peut soulever 23 tonnes pour enlever son enfant de dessous. Et alors, il peut sauter du troisième. On peut faire des choses, bien sûr, c'est des choses folles, mais on peut faire des choses que notre corps, il ne nous autorise pas. Et Chaim Shmulevitch, il ramène le meilleur exemple de ça, ce qui est dans la Torah. Vous savez, quand Bithya, elle a vu Moshe Rabbeinu dans son berceau, il était loin, il était emporté par le fleuve. C'est marqué, elle a tendu son bras. D'accord? C'est-à-dire quoi, elle a tendu son bras? Pourquoi la Torah nous dit, elle a tendu son bras? Rashi dit, c'est au nom de la Gemara, qu'en réalité, il était loin. Et elle savait qu'elle ne pouvait pas l'atteindre. Mais elle ne pouvait pas rester en disant, je peux y faire, en train de mourir. Non! Elle a tendu le bras. Et c'est marqué, Hachem lui a fait un S, et son bras s'était tendu. Après, Shmulevitch, il dit, c'est une erreur, c'est pas un S. C'est la force de la volonté qui a fait qu'elle est arrivée à étendre son bras. Comme s'il y avait, il y a des limites de ça. Mais comme on a dit, il y a les limites physiques, les limites intellectuelles, les limites de force. Des fois, quand quelqu'un il veut, il peut rester 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours sans dormir. Il suffit qu'il ait la volonté. Sinon, il ne veut pas. La même chose, même les limites de notre corps, elles sont extensibles. Bon, déjà, c'est des domaines déjà un peu plus complexes. Mais en tout cas, c'est marqué comme ça dans la Torah pour Bithya. Et la capacité de l'âme de voir au-delà du corps, on pourrait appeler ça de façon triviale la télépathie, d'accord ? Voilà. Voir au-delà des limites du corps, eh bien ça, c'est quelque chose qui est une étincelle de la présence d'Hachem. Et donc, comme l'âme, on ne la voit pas, la même chose, Hachem, tu ne le vois pas, ça ne te dérange pas de ne pas voir ta vie. Elle est là, ta vie. Tu ne l'as jamais vue, ta vie, ni ton âme, tu ne l'as jamais vue. Et pourtant, elle est là. Donc, pourquoi tu t'étonnes que tu ne vois pas Dieu ? Très bien. Troisièmement, Ma Kadosh Baruch Hu Zan et Kol HaOlam, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu il nourrit le monde entier, Af Neshama Zana et Kol HaGuf. De la même manière, la Neshama nourrit tout le corps. Et ça aussi c'est intéressant, parce que c'est pas la même chose pour nourrir les cellules cérébrales, les cheveux, les ongles, chaque élément, chaque membre dans le corps, il a besoin de quelque chose. Et pourtant, il y a un influx vital qui s'occupe de tout, qui gère tout et qui nourrit tout le corps là où il faut. Alors quand on te dit, oui, il y a Dieu qui s'occupe du monde entier, qui s'occupe de là, de là, de là, de là, ça te pose problème. Non, ça te pose un problème pour ton échama. C'est un échama. Tu t'es jamais demandé comment mon doigt y vit, et mon pied y vit, et mon oreille et mon cerveau. Il y a une échama, il y a un souffle vital. Eh bien, c'est la même chose, ça ne doit pas te poser problème de comprendre qu'il y a une sorte de méga puissance qui s'occupe de gérer le monde entier. D'accord ? Ça, c'est le troisième enseignement que la Neshama nous apporte sur la présence de Dieu dans le monde. Ok ? Et en réalité, il faudrait les marquer parce que ça paraît un peu enfantin. Mais ce n'est pas enfantin du tout parce que c'est des problèmes de Emouna que nous on a. Toutes ces questions que de la Gemara, oui, Dieu, on ne le voit pas. Et Dieu, où il est ? Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? D'accord ? Tous ces problèmes, quand tu les auras résolus pour ta propre âme, eh bien, tu pourras les résoudre pour Dieu. D'accord ? Donc, le troisième point, Akadosh Baruch Hu, il remplit le monde, comme l'âme. Akadosh Baruch Hu, il voit, il n'est pas vu, comme l'âme. Troisièmement, Akadosh Baruch Hu, il nourrit le monde, comme l'âme. Quatrièmement, 2, 4, 5...
Il remplit le monde et il nourrit le monde.
Ah, remplir, ça veut dire que sa présence, elle est partout. Une idée, c'est une idée de présence. Oui, il est partout dans le monde. Il est là, il est là, il est là. Il peut remplir le monde, comme ton âme. Ton âme, elle remplit totalement ton corps. Et nourrir, c'est encore autre chose. Elle peut être elle peut être même dans le corps, dans le cœur, par exemple, et envoyer l'énergie ou être responsable de tout. Remplir et... c'est pas lié, remplir et nourrir. Quatrièmement, Ma Kadosh Baruch Hu Taor Af Neshama Teora. Comme Hachem il est pur, d'accord, et il est insalissable, ça veut dire Kadosh Baruch Hu il reste pur quoi qu'il arrive dans le monde, même la Neshama elle reste pure quoi que tu fasses toi-même. Ça demanderait encore à s'approfondir. Kadosh Baruch Hu il est Taor, ça veut dire Kadosh Baruch Hu par essence il est bon. Et tout ce qui se passe de mal dans le monde, tous les malheurs qu'on voit dans le monde, toutes les, entre guillemets, injustices, les anomalies, d'accord, ça n'enlève pas la pureté d'Hachem. Eh bien, l'anchama d'un homme, profondément, elle reste pure, quoi qu'un homme il ait fait dans sa vie, on ne peut pas salir, on ne peut pas impurifier une neshama. Et on le dit tous les matins. Neshama shenatatabi teora. L'âme que tu m'as donnée, elle est pure et elle restera pure jusqu'au dernier moment. Elle est insalissable, l'âme juive. D'accord ? Donc en réalité, c'est à ça qu'il faut se rattacher quand on s'est égaré. C'est se rattacher à ce brasier central. Et enfin, Ma Akadosh Baruch Hu Yoshev Bechadre Chadarim, comme Akadosh Baruch Hu y réside dans l'intériorité de l'intérieur, Af Neshama Yoshevet Bechadre Chadarim, la même chose, la Neshama, elle réside dans l'intériorité de l'intérieur. Ça veut dire que ici, c'est un peu le contre-pied de ce qu'on avait dit avant, que Akadosh Baruch Hu, en vérité, on peut le trouver. C'est-à-dire, à force de dire il est partout, et quand quelque chose est partout, elle est nulle part. Tu ne sais pas où le chercher, il est là, il est là, il est là. D'accord ? Par contre, Akadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose de spécial, c'est qu'il a concentré, entre guillemets, c'est pas le bon n'est pas bon, mais on va dire de façon simple, mais c'est faux. Il a concentré sa présence dans certains lieux, je corrige, il a donné plus de facilité d'appréhender sa présence dans certains lieux. Pourquoi le Kohen Gadol, il rentrait le jour de Kippour dans le Kodesh HaKodashim ? D'accord ? Est-ce qu'il y avait plus Hachem dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour qu'avant ? Non. C'est simplement que ce jour-là, Hachem, il a enlevé les voiles qui le permettaient de le percevoir. Eh bien, la même chose. À Kadosh Baruch Hu, il y a des lieux où il se dévoile. On dit le Kotel, on dit une choule. C'est des endroits où on dit à la Shekhina. Et chaque fois, je le répète pour que ça rentre de façon indélébile. La Shekhina, c'est pas la présence divine, c'est la révélation de la présence divine. La présence divine, ce sont des axiomes. Dans l'axiome 3, c'est il remplit le monde. C'était le 1, même. L'axiome 1, il remplit le monde. Donc, il n'est pas plus ici que là-bas, que là-bas, que là-bas. Hachem, il est partout. Pourquoi tu as besoin d'aller à Yerushalayim au Kotel ? Pourquoi le Kohen Gadol, il a besoin de rentrer dans le Kotel ? Non. C'est la révélation de sa présence. Hachem, il a fait qu'il a. Hachem, il s'est caché. Il a enlevé des voiles dans certains lieux, dans certains moments. Il s'enlève le voile. D'accord ? Mais sinon, Hachem, il est dans l'intériorité de l'intérieur. Il dit ça, le cinquième point de lien entre Hachem et la Neshama, c'est que moi, j'aimerais bien, avec tout ce qu'on m'a dit sur la Neshama, faire un peu le lien avec cette Neshama. Ça m'aiderait. Ça m'aiderait d'être en relation avec ce bouton reset, avec cette partie pure qui est en moi. D'accord ? Chacun, il voudrait faire le lien avec... C'est comment dire, l'enfant qui, quand il avait 12 ans, tout était beau, tout était bien, je suis bar mitzvah, je suis encore tout propre. Et chacun, il essaye de refaire le lien avec cet enfant-là. Quoi qu'on fasse, on refait toujours ce lien-là. Mais encore plus, a dit la Gemara, il n'y a pas besoin de rechercher l'adolescence ou l'enfance. Recherche simplement où elle est un Neshama. Il dit la Neshama de la même manière qu'Hachem, il est bechadre chadarim, c'est-à-dire il se dévoile dans certains endroits, la Neshama aussi, elle a la capacité, il faut la rechercher. Il faut rechercher ce dévoilement de la Neshama dans son intérieur. C'est-à-dire que on doit parler, ce qu'on dit, on avait dit ça la dernière fois, que c'est marqué que un des moments où la Neshama, elle émerge un petit peu pour dire « je suis là », c'est Yom Kippour Neila. Alors c'est vrai qu'il y a tout on est porté à ça. Mais c'est plus que ça, c'est pas seulement une mise en scène qui va faire croire que non, c'est Béhémet, un moment où la Neshama, elle émerge de ses couches et elle te dit, je suis là, c'est-à-dire moi, je, c'est pas moi, c'est toi. Toi, tu es là et tu es pur. Et si on arrive à faire le lien avec ce moment de la Neshama, alors ça peut nous aider pour la suite. D'accord ? Ouais.
Question. Ouais. Comment est-ce que l'âme de Bilam pouvait être aussi proche de Hachem ?
Ça, la proximité avec Hachem, c'est par rapport à la prophétie. C'est Hachem qui a donné ça à Bilam, d'accord ? C'est une connaissance des plans d'Hachem. Mais ce n'est pas une connaissance d'Hachem. L'âme de Bilam, elle était impure. Il n'y a qu'à voir son comportement. Mais Hachem, il lui a donné, pour pouvoir avoir de quoi dire aux nations, en disant, mais nous, on voulait un prophète. Alors Hachem, il a donné à Bilam ses connaissances. Mais ce n'est pas une âme pure, comme elle est là. Pas du tout. C'est une âme qui avait les connaissances des plans d'Hachem.
C'est le paradoxe que tu vois, tous les grands sages qui travaillent sur eux.
Oui, exactement. Lui, il avait une connaissance de la technicité. Il y a des techniques, une technicité qui peut te permettre d'accéder à une vision prophétique, un petit peu. Ça, c'est ça qu'avait Bilam. Ok ?
Vous disiez tout à l'heure que l'âme du bébé pourrait voir
oui, très, très loin. Loin. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle apprend toute la Torah et elle n'a pas d'oubli.
Et quand elle dit du défunt,
c'est-à-dire
au défunt, quand le défunt il part,
son Neshama se sépare de lui, elle remonte.
Mais elle n'a aucun lien après avec Hachem.
Ah, mais si.
Oui, mais je veux dire, il ne voit plus rien.
Qui ne voit plus rien?
Bah, le défunt, par rapport au bébé. Attendez. Qui voit très loin.
Une seconde. Ce qu'il voit dans le bébé, ce n'est pas le bébé, c'est la Neshama du bébé.
Oui, la Neshama, oui, déjà.
Dans le défunt, il n'y a plus de Neshama.
D'accord.
Cette Neshama qui sort, elle voit.
Oui.
Ce que vous dites, on va le voir un peu plus tard dans la Gemara.
D'accord.
Est-ce que la Neshama, après le décès, elle continue de voir? Elle peut voir. On va voir ça. Sous-entendu, est-ce que la Neshama, elle a encore une relation avec notre monde? Oui, la Neshama, elle reprend ses qualités, elle reprend ses caractéristiques et elle voit. Alors, ce qui peut se passer, bon, mais ça nous engage moins, c'est que la Neshama, on ne peut pas la salir, mais on peut l'emprisonner. D'accord? Ce qu'on appelle les clipodes et tout ça par ses fautes. Bon, mais ça, ce qui est le plus important de retenir, c'est un, remplit le corps. Deux,
elle voit,
elle n'est pas vue. Trois, elle nourrit le corps. Quatre, elle est pure pour l'éternité. Et cinq, c'est qu'elle est accessible dans un petit coin de la personne. Ça veut dire qu'il faut faire une recherche pour refaire le lien avec cette étincelle de pureté qu'on a en nous. On va dire les choses comme ça. D'accord? Très bien. Encore, on fait un petit peu du Nounalef. Vous êtes bon?
Oui.
On va faire juste le début. Amarav Amnouna. Oui, donc c'est... Aussi, je voulais refaire ce passage, parce que Mehmet, ce passage, il est très important pour traverser Kippour. On ne traverse pas Kippour de la même manière. En fait, c'est mettre sa Neshama à nu. D'accord? Et c'est très important de savoir quelles sont les qualités qu'un juif, il a en lui-même. Chacun, il est comme ça.
C'est Kippour toute l'année.
Oui. Amar Rav Amnouna. Rav Amnouna, il a dit, Maï Dirtiv, c'est marqué un verset dans Kohelet, Mi Kehachacham ou Mi Yodea Pesher Davar. Quel est le sage qui connaît Pesher Davar, la. Comment on appelle ça? La Pshara. Il y a le Din la Pshara, comment on appelle ça, Michel? La Pshara, c'est faire une.
Compromis.
Exactement, Chazak, voilà. Qui connaît. Quel est l'homme sage qui connaît le compromis? Elle dit la Gemara, Mika Kadajorou, qui est comme Dieu, Shiodea Lasot Pshara Ben Shne Tzadikim, qui arrivait à trouver le compromis entre deux sages. Ben, c'est qui? Ben Chizkiaou, entre le roi Chizkiaou, Ézéchias. C'était un grand roi, un très grand tzadik qui aurait d'ailleurs pu être le Mashiach. C'est qu'il y a cette notion de Mashiach potentiel et de Mashiach réel. D'accord? Et Chizkiaou, il était un tellement grand tzadik qu'il aurait pu être le Mashiach. Et Yishayou, c'est le prophète, Isaïe. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que... à cette époque, à l'époque du roi Chizkiaou, le prophète de l'époque, c'est le prophète Ishaïa. Et le prophète Ishaïa, il avait une prophétie qu'il devait donner à Chizkiaou. En général, lui, c'était le prophète, donc c'est l'instance spirituelle, et l'autre, c'est l'instance temporelle, c'est le roi, on va dire comme ça. Et il ne se parlait que par messager. Il s'envoyait des messagers. Hachem, il a dit, mais ça suffit. Il faut bien qu'il y ait une réunion entre le temporel et l'intemporel, entre le prophète et le roi. Il faut qu'ils se parlent, ces deux-là. Oui. Chizkiaou Amar, Chizkiaou, il disait, Lite Ishayahu Gabay. Il faut qu'il vienne, Ishaya, chez moi. De Achi Eshkaram Ben Yahou, parce qu'on a trouvé pareil avec le prophète Élie. De Azi, le Gabé Achav. Le prophète Élie, il est allé rendre visite au roi Achav, qui était un rachat. Chez Neymar, comme c'est marqué, Voyelech Eliaou, l'Erotel Achav. Eliaou, il est allé rendre visite à Achav. Donc pourquoi il ne viendrait pas chez moi maintenant me dire sa prophétie? Ishaya Amar. Ishaïa, il a dit, Lite Chizkiaou Gabay, non, c'est au roi à venir chez moi. Deux orgueilleux. Vous avez dit la Gemara. De Achi Eshkaran Bioram Ben Acha, parce qu'on a d'ailleurs trouvé avec le roi Yoram, de Azi, le Gabé Elisha, qui est allé chez l'élève de Elisha. Et donc, il y avait une situation fermée où deux personnes ne voulaient pas se parler. Intéressant. D'accord? Il faut trouver un compromis. Comment on peut faire pour que deux personnes qui ne veulent pas se parler puissent se rencontrer, les conflits familiaux. Ouais. Elle est terrible, cette histoire. Maasa Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Et vi yisurin al Chizkiaou. Malheureusement, comme souvent, il a amené des souffrances, des maladies sur le roi Chizkiaou. Et quand il y a la maladie, les conflits familiaux, etc. bêtement, d'accord. C'est imbécile, certains qui sont malades, certains qui sont mourants pour venir le voir. Faites la paix. Et donc, vers Marloulisha, Yahou, et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Shayou, ah, maintenant c'est lui le malade, l'air ou Bakar et Acholé, rend visite au malade. Il a dit, bon, d'accord, j'irai. D'accord. Voilà, on va s'arrêter là, parce qu'après l'histoire continue, elle est longue. En tout cas, voilà, c'est aussi intéressant que, c'est vrai que Kippour, des fois on n'arrive pas. C'est vrai que Kippour, c'est aussi l'occasion de régler des petits conflits interpersonnes, interfamilles, d'accord, et de passer, de baisser la tête en disant, bon, d'accord, c'est moi qui ai raison, mais je baisserai la tête, j'irai. Je baisserai la tête, j'irai, je proposerai la paix, en espérant que l'autre, il aura cette intelligence. D'accord. Et bon, il y a des halakhot spéciales. D'ailleurs, c'est aussi intéressant de s'arrêter là, mais c'est marqué que Kippour n'a de sens que si on répare d'abord les fautes interpersonnelles. D'accord. Les erreurs qu'on a fait vis-à-vis d'autrui, que ce soit la famille, que ce soit un ami, etc., on doit d'abord s'excuser, c'est la première chose. Et si on est pour rien, eh bien, on doit aller dire, on ne doit pas dire j'ai rien fait, on doit dire baisser la tête si l'autre il veut pas. À l'inverse, celui à qui on a fait du tort, la Gemara dit, il doit avoir l'intelligence de pardonner. D'accord. Mais en tout cas, on ne peut pas se présenter à Kippour si on n'a pas essayé, en tout cas. Parce que des fois, devant vous avez le mur. Mais si on n'a pas essayé de régler les conflits interpersonnels, on ne peut pas. Et malheureusement, d'accord, cette Gemara, elle a toute sa beauté, c'est que si on a deux têtes de mule, qui sont des orthodoxes, deux orthodoxes terres de mule, puisque Chizkiyahou c'était le roi d'Israël, et Ishaïaou c'était le grand prophète, et la Gemara dit c'est deux têtes de mule, d'accord, et bien forcément il faut qu'il y en ait un des deux qui tombe malade. Alors pourquoi c'est. Ouais. Pourquoi ça, on verra, on va reparler de ça. En tout cas, il y en a un qui va tomber malade, et forcément l'affaire ça va s'arrêter. Là, bêtement, on aura perdu 10 ans, 15 ans de bagarre pour rien. Bon. Voilà.
On avait une réflexion il y a un jour concernant le président de la Tunisie qui a dit que c'était à cause des sionistes parce que l'ouragan s'appelait Daniel qui a détruit la Libye et le Maroc.
Et donc c'est l'affaire des sionistes.
Et c'est l'affaire des sionistes, c'est à cause d'eux. Est-ce qu'il peut y avoir, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez reporté ça sur les Allemands, à la fois on en a parlé, il ne peut pas y avoir une séra sur les Allemands. Est-ce qu'on peut penser Akadosh Baruch Hu a fait ça juste avant Rosh Hashanah pour.
Je sais pas.
Parce que les paroles du président,
des paroles. Je sais pas.
Qu'est-ce qu'il a dit largement antisémite.
Il a dit que les catastrophes qui arrivaient.
Non, mais je vais vous dire, moi j'ai une autre réflexion.
Le président tunisien.
Oui.
Moi j'ai une autre réflexion.
La tempête s'appelle Daniel.
Il en est trop.
Normalement, c'est Daniel, c'est un prénom hébreu.
Il en est pas son.
Oui, c'est des antisémites. Maintenant, je ne sais pas. La vérité, on ne peut pas interpréter le plan d'Hachem là-dessus. Voilà. Peut-être oui, peut-être non. Moi, il y a une chose qui m'a fait beaucoup de peine et qui continue à me faire de la peine. C'est qu'ils ont parlé là-bas 2000 morts, 3000 morts et là-bas 10 000 morts. Très bien. Mais après, cette semaine, je suis tombé sur là-dessus que pendant la guerre, c'était 10 000 par jour qui tuaient des juifs. Ouais. Et le monde s'est tué. Et là, parce qu'il y a eu 10 000 morts à Darnasse, c'est la fin du monde. Mais où vous étiez? Dans chaque camp, ils tuaient 5 000 par jour. Et 10 000 par jour. Mais ça me donne envie de vomir. Bien sûr que j'ai de la peine pour les Libyens. On doit avoir de la peine pour les Libyens. C'est des Bnei Adam, mais on doit les aider. Il n'y a pas de problème. S'il faut faire tout. Oui. Mais le monde, il nous a laissé par terre. Le monde nous a laissé par terre. Il tuait 10 000. Comment c'est possible? Semaine après semaine après semaine, jour après jour. Ça me bouleverse à l'intérieur. Tu comprends? Je me dis, mais d'accord, vous nous saoulez avec Darna, d'accord, toute la journée. C'est normal, parce qu'une chose, un malheur ne doit pas empêcher l'autre. Mais quand le monde aurait dû s'éveiller, eh ben, tout le monde s'est endormi. Bon, en vérité, il y a un dirigeant dans le monde, hein, c'est pas. C'est Hachem. Si les choses n'étaient pas dirigées, Hachem il n'aurait pas laissé faire un truc comme ça. Il y a une raison qui nous échappe et que de toute manière on ne doit pas trop s'approfondir là-dessus parce que c'est tellement au-delà des limites de l'entendement.
Par rapport aux paroles de
cette. Ouais, par rapport aux paroles, je sais pas, on peut pas. Je sais pas si lui c'est un prophète, là, il a mis comme Bilam, c'est le Bilam du 20e siècle, je sais pas.
Sous l'ouragan s'appelle Daniel. Attention, dans le
futur.
Et pour le Maroc, c'est quoi?
Non, il a dit l'ouragan et tout ce qui s'est passé, quoi.
Peut-être.
Pour le Maroc, il y a cette déclaration.
Il y a là.